Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard à l'antenne de Canal M. Antenne virtuelle, on se comprend. On n'a pas vraiment d'antenne ici. On est plutôt virtuel, Internet, câbleau, site web. Mais on dit toujours à l'antenne de Canal M, c'est Sans détour, 24 avril. Aujourd'hui, nous aurons le plaisir de parler de handitourisme avec Stéphane Zremeta, directeur éditorial du Petit Futé, une collection de guides touristiques qui, maintenant, vient de sortir un guide pour le handitourisme en France. Pierre Brisebois sera parmi nous pour parler de la dégénérescence maculaire, la prévention, les activités de sa fondation. Hélène Gagnon, coordonnatrice chez Action Autisme en Haute-Côte-Nord, Manicouagan. On parlera des challenges et des défis, évidemment en région, mais également tout ce qui se fait là-bas pour les personnes qui vivent avec des troubles du spectre de l'autisme. Esther Hardy, notre globe-trotter, nous revient encore une fois avec une magnifique revue de presse. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Mme Lynn Dubé, notre chroniqueuse techno. Tout ça à Sans détour. Madame Dubé, bonjour, comment ça va?
Ça va bien, vous?
Ça va bien, Madame Dubé. On va... Lynn, hein, ça ferait plus simple. Bonjour, Lynn. Aujourd'hui, on va aller faire les épiceries. On va faire notre commande d'épicerie. On va découper les rabais dans les cahiers, les circulaires.
Mais... Et plus encore.
Et plus encore, oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, tu viens nous parler de l'application Flip. De quoi s'agit-il?
Oui, en fait, l'application Flip, puis là, je me suis donné un défi de trouver des applications mobiles qui sont autant Android que iOS avec Apple. Alors, c'est une joie de pouvoir le faire tant
ben
que
oui,
je serai en mesure.
À titre de représentant de la minorité Android, je te remercie.
Mais c'était pour faire plaisir à M. Beauregard.
Ben oui, c'est bon ça.
Mais on est dans une période difficile pour plusieurs personnes où faire des achats commence à être de plus en plus difficile avec le coût de la vie qui a de la difficulté à suivre. Et Flip, c'est une application mobile qui nous permet de pouvoir avoir accès à plusieurs types de circulaires. On parlera pas juste d'épicerie, on peut même parler de circulaires de pharmacie, oui, de grandes surfaces et tout ça. Alors,
quincaillerie, rénovation, oui, toutes sortes de types de marchandises. Oui. Là. Oui.
Tout à fait. Et il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes avec l'application Flip. Dans le grand public, on va parler de l'application Rebay. Hein? Tout le monde parle, oui, de Rebay, mais pour nous, c'est pas une application accessible, malheureusement. Alors,
c'était ma première question parce que j'ai téléchargé Flip sur mon téléphone. Et pour, pour l'essayer. Et en même temps que je faisais ça, mon téléphone me demandait si je voulais avoir Rebay aussi. Alors là, je me suis dit, il doit y avoir une raison. Si Lynn m'a dit que c'était Flip, c'est Flip.
Effectivement,
Flip, c'est Rebay. F-L-I-2-P, hein, c'est
oui, PP comme papa. Flip.
Oui.
Effectivement, puis on sait que dans le grand public, Rebay a une certaine cote, mais la première fois que je l'ai téléchargé, il faudrait peut-être que je me relance, hein, parce que c'est pas parce qu'une fois ça fonctionne pas que le développeur n'a pas décidé de s'ajuster, mais tout de suite, Flip était accessible, puis on a un contact quand même assez bien avec le développeur. Quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, on a une possibilité de les rejoindre facilement. Puis, il y a un désir d'amélioration. Alors, moi, je suis restée un petit peu collée à ça.
Ouais, cette disponibilité et cette ouverture d'esprit, là, ça leur accorde tout de suite une étoile et demie avant même qu'on commence.
Oui, parce que pour nous, c'est tellement important de pouvoir compter sur un développeur qui est ouvert.
Oui, tout à fait.
Effectivement. Puis, l'application Flip, une des choses qui est intéressante, c'est qu'on peut partager nos choix d'épicerie ou donc nos rabais d'épicerie avec quelqu'un d'autre. Alors, dans notre cas, quand on ne voit pas, on a peut-être quelqu'un qui va nous aider à aller faire notre épicerie, puis des fois, on ne sera pas présent nécessairement. Alors, de partager les choix qu'on aura
identifié.
Oui, merci, parce que je cherchais un mot plus francophone que taguer.
Oui, taguer, c'est on garde ça à la maison.
Ah oui, c'est ça. Puis, effectivement, moi, je le fais souvent avec mon mari. On a chacun notre téléphone, chacun notre application, mais on partage nos identifications de produits. Alors, je passe à travers la circulaire. Là, je repère des trucs qui m'intéressent. Je les identifie. Ils s'en vont dans une liste que lui a aussi accès.
Ah, donc, évidemment, c'est la liste de la maison.
C'est, oui, tout à fait.
C'est un peu comme quand on était plus jeune, je me souviens, collé sur le frigo, il y avait comme une page de papier là,
oui,
avec un aimant puis un petit crayon. Et au fur et à mesure
qu'on
passait au travers du beurre de peanut, on écrivait beurre de peanut.
On écrivait, ouais, c'est
oui,
c'est ça. Sauf que là, le désavantage, c'est qu'on peut partager avec une seule personne pour
d'accord,
l'instant. Ça serait le fun de pouvoir inclure tous les membres d'une famille, exactement, là, parce que, bon, il y en a un que lui, c'était les petits jus pour ses lunchs, puis là, oups, il n'y en a plus. Mais c'est comme pas possible de faire ça pour l'instant. Mais ça reste quand même, pour les aidants naturels, une façon intéressante de le faire. On peut aussi, chose très intéressante de cette application, rechercher un produit. Hein, il y a quelque chose qui manque. Là. Mettons, on n'a plus de beurre.
Ouais.
Mais depuis quelques mois, le beurre a comme explosé.
Disparu ou explosé, oui.
Et puis, on ne veut pas l'acheter à 8 $ la brique de beurre.
Exact, exact. Et,
Alors,
et ça, ben, ça permet donc d'être à l'affût de la fois qu'une aubaine va se présenter pour, mettons, un article qui n'est peut-être pas quelque chose qui est dans le quotidien, mais le beurre, ça dépend de chacun.
Fait.
Mais donc, on sait, ce serait bien, quand ce sera en vente, je vais en acheter pour la peine.
Et
là, ça peut être en vente. Je pense à certains articles qui ne sont pas nécessairement périssables, mais ils peuvent se retrouver en vente aussi bien dans une grande quincaillerie que dans une grande pharmacie ou à l'épicerie. Alors là, il faut
rappeler. Effectivement. Hein, parce que Canadian Tire, là, c'est pas la meilleure place habituellement, mais c'est peut-être
mais
ça.
C'est surprenant, ils vendent du papier hygiénique.
Bon. Oui, oui, du café.
Exact. Alors, donc, si on cherche quelque chose en particulier, Flip va nous aider à ratisser large à travers toutes les offres de la semaine.
Oui, puis même, il peut nous montrer des fois des produits en ligne, hein, parce qu'il l'aura peut-être pas dans une circulaire,
d'accord,
puis là, pour nous, c'est important. Donc, il peut même nous présenter des produits qui sont vendus en ligne sur certains sites web. Alors, ça peut vraiment comme compléter là, des fois.
Comment Flip fait son argent? Est-ce qu'on est bombardé d'annonces? Est-ce qu'il y a un membership? Comment ça marche?
Ben moi, j'ai aucune idée en tant que particulier qui cherche mes produits, mais j'ai l'impression que peut-être chaque personne qui veut être affichée sur Flip doit payer ou
pour avoir qu'une entreprise, une chaîne veut que sa circulaire, disons bien, sa circulaire soit parmi l'échantillonnage. Oui, je comprends.
D'après moi, c'est ça. Puis sur Flip, vous avez plusieurs catégories. Hein. On peut chercher vraiment de A à Z, mais on peut chercher, si on cherche une liste d'épicerie, on va chercher dans la section épicerie. Si on cherche quincaillerie, pharmacie, donc ça peut être super intéressant. Et quand on trouve le circulaire qui nous intéresse, qu'on va consulter régulièrement, on peut même l'ajouter à nos favoris. Alors, on ne passe pas notre temps à la chercher.
À la retrouver. Ça, quand je me suis inscrit à Flip, une des premières questions était mon code postal.
Oui, effectivement, on peut aller par code postal ou par localisation. Donc, si vous choisissez code postal, ça vous cible vraiment avec votre code postal, tandis que si vous êtes avec la localisation et que vous partez en vacances à travers le Canada, ben par exemple, ben là, la localisation peut changer. Hein. Si vous vous retrouvez aux îles de la Madeleine, hein, puis que vous avez...
Oui, puis là, on apprend que c'est vraiment super. Le beurre est en vente près de la maison, mais là, on est loin de la maison. OK.
Mais oui,
peut-être que le beurre est en vente à Cap-aux-Meules. Hein? Alors là, oui. On pourra en profiter.
Ah oui, il faudra en profiter parce que les prix sont quand même un petit peu plus chers là-bas.
Oui, malheureusement, tout à fait. Quand on parle d'accessibilité de Flip, est-ce que c'est à l'intérieur des paramètres, il y a une option pour augmenter l'accessibilité ou c'est parce que c'est facile de lire Flip avec un logiciel?
En fait, c'est vraiment parce que Flip, à la base, ont décidé de rendre ça accessible pour les lecteurs d'écran. Donc, ce que je veux dire par accessible, c'est qu'on me dira pas juste, parce que en général, pour quelqu'un qui voit, vous pourrez le valider. Si je tombe dans une circulaire puis qu'on m'affiche du beurre, ben j'aurais pu tomber seulement sur une image puis qui me dit image avec des codes puis tout ça, ouais. Et que ça soit pas accessible. Tandis que le Flip a vraiment pris le temps d'écrire derrière la photo le code qui va me permettre d'entendre beurre à 4,75 $, par exemple, blablabla. Mais si ça, c'est pas fait, si ce travail-là n'est pas fait, j'ai une belle circulaire, toute bien colorée,
pleine
inaccessible.
Ouais. Pleine d'images non identifiées.
Hein, moi, ça me fait toujours rire quand on me dit une image vaut 1,000 mots. Pour moi, ça ne vaut pas
grand-chose. Oui, non, des fois, ça vaut un long silence.
Oui, effectivement. Donc, accessible veut dire qu'on ne me dira pas seulement bouton, 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 et que si je double-tape avec VoiceOver ou avec TalkBack sur un item, ben ça va me mentionner ajouter. Donc, je sais que ça a été ajouté à ma liste d'envie. À moi, qui va être dans la section liste, que je vais pouvoir retrouver. Si ce n'était pas accessible, ça ne me dirait rien.
Oui,
j'aurais beau faire tap-tap.
On ne pourrait pas y accéder.
C'est tout ça, là. Ouais, c'est okay. Tout le codage.
J'ai juste une petite remarque à faire, et tant mieux, Lynn, si vous parlez souvent, de temps en temps, aux gens de chez Flip. Quand j'ai cliqué dans paramètres aide et soutien, ça m'a amené une page en anglais.
Ah,
ça, je ne sais pas si c'est mon téléphone ou si c'est dans la roue dentelée en haut à droite, c'est marqué « Aide et soutien ». Puis là, j'étais curieux de savoir est-ce qu'il peut y avoir une amélioration de la résolution à l'écran ou des choses comme celle-là. Ça, c'est une question d'une personne qui a une basse vision. Moi, ça me répondait à ma question d'aide et de soutien, mais ça me répondait uniquement en anglais.
Remarquez. En anglais.
Oui.
Ben, je peux, oui, effectivement, je peux interroger pour voir si, je vais faire le test moi-même, premièrement, mais je vais poser la question pour savoir si, justement, c'est un problème parce qu'on n'a pas mis cette section-là, mais je peux répondre pour les utilisateurs Apple, malheureusement pas pour Android, mais quand on se retrouve sur un site web, on peut utiliser le bouton réglage de la page dans le haut et traduire instantanément le site web en français.
Ah, bon, parfait. Merci. Ça, c'est une question de néophyte, là, mais c'est bon déposer.
Non, mais,
voilà.
Oui, mais c'est excellent, puis il faut se la poser la question parce que c'est important et c'est souvent une problématique quand c'est créé par un développeur anglophone. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas anglophones? L'application est vraiment traduite dans la bonne langue de notre téléphone, mais tout ce qui a attrait à l'aide est souvent resté dans une seule langue.
Tout à fait, parce que ça fait partie plutôt de l'infrastructure du site, là. Puis ça, c'est la même pour toutes les langues d'utilisation. Peut-être que c'est ce qui arrive. Alors ça, Flip, ça va nous permettre de faire nos emplettes de façon, je dirais, simple et en même temps d'économiser. Puis ça ne coûte rien. Encore une fois, il n'y a pas de carte de membre.
Et j'aimerais ça ajouter un petit truc super intéressant qu'il faut vraiment savoir, là, c'est que les circulaires vont généralement débuter les mercredis, terminer les mercredis pour recommencer les jeudis, hein, pour la plupart des magasins.
Oui, tout à fait.
Et je dis la plupart, c'est pas toutes, mais les circulaires vont devenir disponibles genre vers la fin de la journée du lundi. donc en avance. Et faites attention, parce que ça veut dire que les mardis et les mercredis, vous allez avoir deux circulaires de Super C, deux circulaires de Maxi.
Oh,
deux. Et il ne faut pas se tromper de date.
Et la date, elle, on peut facilement la retrouver.
Oui, elle est toujours indiquée dans le haut de la circulaire, puis même avant de l'ouvrir, ça va dire que la circulaire est de telle date à telle date.
Oui.
Mais attention de ne pas vous présenter le mercredi et de vous ostiner avec le commis.
Comme quoi, ben, il est supposé avoir une vente sur le beurre, là, mais là, il n'y en a pas. Oui, mais c'est demain le beurre. Oui, mais dans votre circulaire, ça dit non, ça c'est... Ah là là, OK.
Et c'est la circulaire papier qui prévaudra toujours sur la circulaire de Flip. Alors, s'il y a des erreurs dans Flip, ce qui peut arriver,
oui.
On a beau s'ostiner, mais c'est pas Flip qui a raison.
Mais le fait d'avoir accès à la circulaire à l'avance, parce que c'est un format électronique, puis ça n'a pas encore été imprimé puis déposé sous forme d'un publisac à notre porte, ben ça nous permet à ce moment-là déjà de se faire une petite idée des emplettes qu'on va faire. Alors, si on fait attention à la date, c'est pas mauvais, hein?
Non, c'est même excellent.
Ben, merci beaucoup, Lynn.
On va
s'en va courir les ventes, là.
Excellent.
Merci, à la prochaine.
À la prochaine.
Viva the Funk, Joe Sample. la musique préférée de la console. Nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie M. Stéphane Zerimeta. Bonjour, M. Zerimeta.
Bonjour, ça fait plaisir de vous entendre.
Vous êtes directeur éditorial du Petit Futé, une collection de guides de tourisme qui couvre la planète, là, nous connaissons déjà depuis de nombreuses années. Le Petit Futé, et maintenant, c'est mis à la tâche pour créer un guide d'handitourisme, de tourisme pour personnes en situation d'handicap qui couvre toute la France. Ben, bravo.
Merci. Alors, c'est vrai que le Petit Futé, c'est une histoire assez ancienne. Hein. Depuis 1976, on existe, donc on est assez... c'est une collection qui a une belle histoire. Depuis toujours, on s'est intéressé au handicap. Dans les guides, on faisait attention à bien avoir une sélection référencée. On mettait des petits pictos handicap sur les guides classiques hein, qu'on trouve dans toutes les éditions. Et là, c'est vrai qu'il y a eu le besoin. On s'est dit, il faut absolument qu'on fasse un guide entièrement dédié au handicap pour les conseils, pour les bonnes adresses.
Tout à fait. Et là, ce qui vient de sortir tout frais là, ou tout chaud de l'imprimerie, c'est votre 10e édition.
Ah oui, oui, alors c'est vrai que c'est une édition, ça on y tient beaucoup. Lorsqu'on sort un guide, on tient absolument à relancer, à avoir chaque fois des nouvelles éditions qui sortent actualisées. Hein. Le petit futé, c'est chaque fois une édition que l'on sort, sur laquelle il y a une sélection d'un auteur, et l'année suivante, eh bien, sort l'édition actualisée, parce que bon, on est sur du contenu un peu chaud, hein. Oui. Les horaires, les tarifs, tout ça, ça bouge, et je crois que encore plus quand on est en situation de handicap, c'est important que ce soit juste, parce qu'on s'est déplacé, ça a été plus compliqué souvent que pour la moyenne des gens en déplacement, donc c'est encore plus important que l'expérience ne soit pas gâchée par des problèmes techniques d'un restaurant qui n'a pas plus les bons horaires et sur lesquels on va retrouver porte close.
Et surtout, après l'épisode de la pandémie, malheureusement, il y a des établissements qui ont fermé définitivement. Il peut y avoir des choses qui ont vraiment changé. C'était pas des années ordinaires, les deux dernières. Alors, dans ce sens-là, c'est d'autant plus important d'être à jour.
Des années compliquées, et c'est très important d'être à jour, mais à souligner quand même que la politique européenne, française, de soutien aux entreprises de restauration, aux entreprises touristiques, a permis qu'il n'y ait pas une grande casse. Et on retrouve beaucoup d'établissements, la majorité d'établissements, qui n'ont pas fermé du fait de la pandémie. Et donc ça, c'est vraiment important, hein, ça... ça bouge, les échanges bougent, mais pas plus que les autres années. La pandémie n'a pas eu de grands impacts à ce niveau-là.
Et on voit du côté de l'offre, enfin, je me pose d'un point de vue de ce côté-ci de l'Atlantique, il y a vraiment une rage de voyager maintenant. Là. Ça fait quelques années qu'on est à la maison, qu'on tambourine. Et là, on veut voyager, il y a une grande demande et évidemment, le guide tombe à point. Le guide se décline en deux parties. La première est plutôt de l'ordre de conseils.
Oui, absolument. Ben, c'est important parce que, par exemple, vous voyez, il y a une partie qui, moi, me semble bien, c'est aussi aider un tout petit peu à financer ses vacances parce qu'il y a
c'est
des
juste.
Dispositifs publics pour aider à... voilà, et c'est une question qui est assez importante. Il y a aussi, et donc, dont parfois les gens sont bénéficiaires sans le savoir. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir référencé un peu pour que chacun puisse dire, bah, tiens, je suis dans telle situation, je ne savais pas, j'avais droit à ça, eh bien, j'y ai droit et je m'y inscris, je les contacte. Et il y a aussi des dispositifs privés. Donc, ça, c'est vraiment intéressant à travers les comités d'entreprise, hein, les mutuelles, mais aussi des associations caritatives où il y a vraiment de belles actions. Et donc, c'est assez important pour nous de référencer, d'aider un tout petit peu. Voilà, comment financer ses vacances, bah,
Et je voyais aussi dans le guide des choses aussi simples, mais vraiment bien, comme quelqu'un qui fait de la location de voiture adaptée. Alors,
oui.
C'est pratique, parce que sinon, comment je m'y retrouve?
Bien sûr, on a toute une partie hein, sur le transport, l'hébergement. On explique comment on peut louer une voiture, qui va pouvoir aider là-dessus. Et par exemple, des choses incroyables, je ne savais pas. Et il y a une association aussi pour motards solidarité hein, qui permettent aux personnes handicapées physiques de passer, régulariser un permis moto. Donc, et même ils mettent à disposition en moto, en sidecar, avec des aménagements interchangeables. Hein, donc, c'est vraiment très très intéressant. Qui peuvent être aménagés pour des paraplégiques, des amputations. Donc, il y a plein de choses auxquelles on se dit pas forcément que ça existe. Hein, et c'est assez bien de les avoir ainsi référencés.
Dans ce sens-là, il y a toute une panoplie de services. Ce qui m'a évidemment... ce qui est une référence, si je peux dire, en handi-tourisme, c'est le label Tourisme et Handicap.
Oui, absolument. Donc là, on a veillé aussi à référencer les labels, c'est important. Alors, il n'y a pas que ce label-là.
Il y en a d'autres. Oui.
Et donc, nous, on fait attention. Et d'ailleurs, on travaille en ce moment sur... je voulais en parler après. On travaille avec d'autres, et notamment des institutions qui rassemblent un peu tous ces contenus, qui essaient de fédérer ces contenus de différents labels pour aller plus loin, bien sûr, hein, pour avoir... plus de contenu à destination de ce public qui a besoin aussi de nos guides pour découvrir, pour voyager comme un valide classique.
Et ce que je remarquais, c'est l'offre est vraiment vaste, région par région, les hôtels, l'hébergement, les sites touristiques.
C'est un fonctionnement que l'on a. Donc, le petit futé, ce sont les bonnes adresses. Alors, on peut faire du tourisme de proximité autour de soi, chez soi, dans sa région. C'est recommandé. Il y a plein de choses absolument extraordinaires à découvrir où on peut aller beaucoup plus loin. Et nous, on a vraiment la spécificité d'avoir des auteurs locaux. Donc, on pilote pas ça depuis notre siège à envoyer des gens, des reporters. Non, on essaie de travailler le plus possible, avoir un auteur qui vit sur place, qui déniche les bons plans, les bonnes adresses. Donc, ce guide qui est national, qui concerne toutes les régions, va être la compilation finalement de la connaissance, des recommandations d'auteurs qui sont vraiment des gens du cru, hein, des gens qui savent de quoi ils parlent parce que
c'est leur territoire. Oui, et qu'ils ont vu aussi l'évolution. C'est pas comme quoi ils étaient là pour un week-end, puis après ça, ils retournent, ils retournent au bureau.
Ça permet vraiment d'aller plus loin, en fait, parce que c'est vrai que et d'être moins surpris, de voir l'évolution, de voir l'adresse, parce que c'est pas évident de tout tester, vous savez, pour faire mettre à jour, c'est beaucoup de contenu dans un ouvrage comme ça, il y a vraiment beaucoup d'adresses. Et bien, ce qui est important, c'est aussi que le réseau d'amis, de connaissances, fait qu'on a mangé une fois, on a les retombées, donc il y a tout un réseau comme ça de personnes qui a des informations qui leur reviennent. Oui, ça a un peu baissé la cuisine et les gens vont retenir. Tester, ou ça a le vent qui en poupe, et dans ce cas, également, ça peut être des adresses qu'on réintègre. Hey, c'est toute une connaissance comme ça d'un territoire.
Oui, c'est super. J'ai vu, évidemment, c'est le cas un peu partout, quand on parle d'accessibilité, la société en général pense davantage aux personnes à mobilité réduite. Pour ce qui est des personnes qui on vivent soit avec un handicap visuel ou auditif, c'est moins riche, mais alors, tout de même.
Oui. Vous avez absolument raison, et ça aussi, ça nous tient à cœur, on y fait attention, et on a veillé notamment par rapport aux couvertures de cet ouvrage, de bien communiquer, c'est pas seulement le handicap moteur, hein, fauteuil roulant qui est... Alors bien sûr, il y a les adresses, c'est important, et c'est des informations.
Voilà, mais c'est tout handicap, et ça, c'est tout à votre honneur. Je vous remercie beaucoup, M. Zeremeta, du Petit Futé. Moi, je m'en vais acheter mes billets d'avion. Hein? Je m'en vais au palais idéal du facteur cheval.
Ce sera avec grand plaisir de vous accueillir en France avec beaucoup de plaisir.
À bientôt.
Merci beaucoup. Au revoir.
Avec François Beauregard.
De retour après la pause, j'ai le plaisir d'accueillir, je dirais, mon coéquipier, collègue, ami, Pierre Brisebois. J'ai le plaisir de te connaître déjà depuis un certain temps. Oui. Président de la Fondation de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA. Bonjour, Pierre.
Bonjour, François.
Ça va bien?
Oui, ça va, merci, toi-même.
Ça va bien, je te remercie.
Ça a l'air dynamique, oui, c'est bien.
On va parler aujourd'hui de la DMLA, parce que les chiffres sont... Moi, ça m'a soufflé quand j'ai vu ça.
Ouais.
On parle d'un demi-million de personnes au Québec?
Oui, un demi-million, puis encore là, c'est toute réserve. Là, c'est pas des statistiques... c'est basé sur des d'après les ophtalmologistes, c'est sûr. C'est quand même des statistiques sérieuses, mais c'est pas encore le fond de la vérité parce qu'il y a beaucoup d'aînés qui ne consultent pas en ophtalmologie ou en optométrie, ce qui fait que, puis ils ont peur de mentionner qu'ils ont un problème de vision et de peur de perdre leur autonomie. Donc, mais 500 000, on se trompe pas, c'est sûr, mais mon pif me dit que c'est un peu plus que ça.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a cette crainte de dire, peut-être que j'aurai plus le droit de conduire mon automobile ou je vais être obligé de le déclarer d'une manière ou d'une autre. Puis là, on a... mais de notre côté, si on ne voit pas, puis on s'enfarge, puis on se casse une cheville, on n'est pas d'avance.
Oui, effectivement. Il y a beaucoup d'aînés aussi qui ont peur de le mentionner aussi, mais qui se disent aussi, ben, c'est vieux, je suis rendu vieux, donc ça fait partie de mon quotidien, je pense, de mon vieillissement. Alors que c'est pas le cas.
Ah, qu'ils prennent ça comme une normalité. Ah, normalité. Ben, je vois plus rien, mais ça doit venir avec le package, hein, voilà. Alors, ouais. Si je vieillis, je vois rien, donc c'est normal. Mais ça, ouais. Mais ça se prévient, justement. L'idée, c'est d'être capable de dépister ça plus hâtivement.
Effectivement, la maladie, il y a moyen de la retarder. C'est sûr qu'elle est irréversible, mais il y a moyen de la retarder. Mais d'abord, pour la retarder, il faut être au courant que la maladie existe. Et c'est un des problèmes majeurs qui existe, c'est que les aînés ne sont pas au courant en grande partie de la maladie, qui est la première cause de cécité fonctionnelle, qui vise à 99% ceux qui ont la maladie. Bien, ce sont des aînés, des gens de 70 ans et plus. Ça commence un peu plus tôt que ça, mais dans l'ensemble, c'est surtout cette clientèle-là qui est visée et drôle, mais ne savent pas que la maladie existe. Alors, c'est sûr, depuis 14 ans, moi, je frappe sur le clou, je ne suis pas seul. On est plusieurs à frapper sur le clou pour sensibiliser les gens. Mais je te dirais que régulièrement et encore récemment, dans une présentation de la maladie, expliquer la maladie dans un RPA, et je fais exprès, tu sais, mettons, je donne un exemple, il y a 30-40 personnes. Alors, je dis, levez la main, ce sont tous des aînés. Levez la main, ceux qui connaissent la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou la DMLA. Et des fois, tu vois une main timide se lever la main, c'est parce qu'il y a personne là. Mais sinon, la plupart ne connaissent pas la maladie. C'est ça qui est inquiétant.
Oui.
Je te dis, mais tu sais, je te ferai un parallèle un peu comme si. On sait que l'automne arrive, donc on sait qu'on va mettre une petite veste, on va mettre un manteau plus chaud parce qu'on sait qu'on court.
Mais là, c'est comme si on ne savait pas qu'au mois d'octobre, il allait faire froid.
Ben, c'est ça. Là, on ne sait pas. Ton exemple est bon. Puis là, ils réalisent tout d'un coup qu'ils ont une tache dans l'œil ou que ça commence à onduler, à distorsionner. Et c'est ça, c'est parce qu'ils se sont fermés un œil. Parce que pour voir la maladie, à moins qu'on l'ait aux deux yeux, mais il faut fermer un œil. Alors, ils se grattent un œil par pur hasard. Ils disent, voyons, c'est quoi cette tache-là? Puis là, ils se disent, ah ben, je vais attendre demain, ça va aller mieux. Puis demain, ben, ils disent, ben, après-demain, ça va aller mieux. Puis là, je ne peux pas appeler mes enfants.
Ils vont oui, il y a ça aussi, la peur de devenir un poids, un fardeau, d'inquiéter. Ouais.
Ouais. Alors là, maintenant, avec les technologies, c'est-à-dire technologies, avec la science, au niveau de la médicamentation, il y a deux types à la maladie, je pourrais t'en parler tantôt, mais alors si quelqu'un a la forme humide, ben, au moins, ils peuvent être pris des fois jusqu'à 2 mois après qu'il y a eu une hémorragie dans l'œil, après qu'une tache noire s'est installée. Donc, ça, c'est le côté positif. Alors, ils ne perdront pas leur vision. Malheureusement, chaque mois, il va falloir qu'il y ait une injection dans l'œil qui a la tache pour redonner une vision un peu normale. Et puis, mais sinon, ils perdent la vision. Si c'est pas pris à temps par un ophtalmologiste ou diagnostiqué par un optométriste, ben ils perdent la vision tout simplement centrale. Cette tâche-là,
la vision centrale, c'est celle qui compte le plus. Hein?
Oui, c'est en plein ça, oui.
Ben, tout à fait. Alors, ça, c'est la forme humide. Donc, oui. Je suppose que s'il y a une forme humide, il doit y avoir une forme sèche.
C'est en plein ça, la forme sèche. La forme humide, ça représente à peu près 5% de la population. C'est pas beaucoup là, qui sont atteints de la dégénérescence maculaire. 95% de ceux qui sont atteints ont la forme sèche. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? Ben, c'est-à-dire qu'il va s'installer tranquillement, pas vite, des dépôts dans l'œil qui vont venir faire mourir les bâtonnets et les cons. Alors, c'est ce qui nous permet de voir les couleurs, entre autres, puis de voir les contrastes au niveau de la vision. Alors, ils vont mourir tranquillement, pas vite. Donc, à chaque jour ou à chaque mois...
On va en perdre, mais c'est insidieux parce que c'est pas comme si c'était c'est pas comme si on se levait un matin et là, tout d'un coup, on voit plus rien.
En plein ça. Donc, c'est tranquillement pas vite.
Et le cerveau s'adapte un petit peu... Alors, on se fait à l'idée. C'est comme avoir des souliers qui font mal. Éventuellement, on oublie qu'ils font mal, mais ils font mal quand même.
C'est en plein ça. Et le problème qu'il y a, c'est que, bon, dans le cas de la dégénérescence maculaire sèche, bon, alors, elle atteint 95%, mais celle-ci, malheureusement, il n'y a rien à faire. Sauf qu'on peut retarder la maladie le plus possible.
Il n'y a pas d'injection ou quoi que ce soit?
Il n'y a pas d'injection. Pour le moment, il n'y en a pas. Il est à prévoir à venir des injections qui vont être homologuées éventuellement pour la dégénérescence maculaire sèche. Mais pour ceux qui ont la forme très avancée, mais c'est parce qu'il y a différents types, il y a la maladie. Pour la dégénérescence maculaire humide, ben celle-ci, c'est évident, on a tout de suite une tache dans l'œil. Donc là, par chance, ils peuvent avoir une injection à chaque mois.
D'accord.
Bon, on dit par chance, on ne souhaite pas ça à personne.
Là. Non, mais au moins, c'est un moindre mal, dirons-nous.
C'est en plein ça, parce que la plupart des aînés, ceux qui ont la dégénérescence maculaire, à défaut de voir central, ben il y a des problèmes majeurs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus lire, ils ne peuvent plus écrire. Parce que tu n'es pas en mesure de reconnaître ton écriture, à moins que tu écris vraiment gros, là. elle n'était pas en mesure de lire. Donc, la prise de médicaments, si elle est prise de façon autonome, ben, il y a des confusions au niveau du médicament parce qu'il ne le voit pas. Donc, il y a des intoxications, il y a...
Évidemment, là, c'est un jeu de domino. Il y a, sur le site, j'ai retrouvé ça sur le site de la Fondation de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Il y a ce qu'on appelle la grille de Amsler.
Oui, qui est la référence, la grille d'Amsler.
Ça a l'air super simple comme test.
Oui, ben ouais, c'est un quadrillé où est-ce que tous les carreaux, sont égaux. Et puis, c'est dans un carré. Et puis, alors, il faut regarder ça, il faut fermer un œil. Il faut se tenir à une distance d'à peu près 12 pouces ou 30 cm et fermer l'œil et s'assurer qu'il n'y a aucun carreau qui bouge ou qui ondule ou que les lignes ne sont, ils ondulent pas un peu comme son pincet d'une corde de guitare. Là, tu sais, ça ondule. Là.
Okay.
Alors, il faut s'assurer que ça soit parfait. Et puis, sur le site de la Fondation, il y a des exemples, justement, de une simulation. Qu'est-ce qu'aurait l'air la vision si quelqu'un a la dégénérescence maculaire à différents niveaux? Donc, ça permet à cette personne-là de comparer sa vision avec l'exemple. Et si moindrement, il y a une distorsion ou il y a une tache, alors il faut consulter rapidement.
Là, il faut consulter. Et en fait, on suppose que tout le monde devrait avoir un examen de la vue régulièrement, de toute manière.
Absolument.
Parce que ce soit la dégénérescence maculaire, mais il y a d'autres pathologies de l'œil aussi qui peuvent être dépistées activement. Là. Je parle entre autres au glaucome et des choses comme celle-là.
Je dirais qu'on travaille beaucoup avec l'Association des optométristes du Québec, la OQ, où est-ce qu'eux, déjà là, ils font un très bon travail en amont, où est-ce qu'ils ont commencé maintenant de rencontrer les jeunes dans les écoles. Mais je te dirais, la génération 50 ans et plus, pas tout le monde qui avait nécessairement les moyens d'aller rencontrer un optométriste puis se commander des lunettes ou les voir régulièrement, mais tu as 100% raison, c'est ce qu'on suggère à tout le monde, même à titre préventif, d'aller, parce qu'il y a tellement de maladies de l'œil, d'aller rencontrer l'optométriste. Parce que c'est accessible, il y en a partout. Hein. Il n'y a pas un coin de rue qui n'a pas une optométriste. Il y a autant de dépendants que l'optométriste, je pense. Alors, eux vont diagnostiquer plusieurs maladies de l'œil et puis vont être en mesure de pouvoir référer en ophtalmologie s'il y a une urgence ou ils doivent être traités.
On a quand même... les causes de la DMLA, est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est héréditaire? Pourquoi quelqu'un là et pas son frère ou son voisin?
Ouais, c'est le grand mystère. Hein. Mais je te dirais que oui, effectivement, il y a des antécédents familiaux qui sont... Alors, si père-mère avait du diabète ou de la dégénérescence maculaire ou sont obèses, ou des problèmes de cœur, de ACV, de ICT, alors tous ces antécédents-là viennent directement jouer au niveau de la DMLA. C'est tout vasculaire, hein? Donc, c'est tout... moi, normalement, on a un problème de cœur, ça peut aller au niveau de l'œil.
Oui, oui. Bien, si on a du cholestérol ou une hypertension, ce sont d'autres pathologies, d'autres problèmes reliés à la vascularisation, c'est-à-dire au système sanguin dans l'œil.
Même affaire, tu sais, si notre père ou notre mère ou notre grand-père, grand-mère est mort du cœur en bas de 50 ans, exemple, bien là, il faut faire attention parce que génétiquement, on a hérité de quelque chose. Puis l'autre problème majeur, c'est le soleil. Les gens ne s'en rendent pas compte. La génération, je te dirais 50 ans et plus, c'est la génération qui a abusé du soleil, des cabines de bronzage, de tout ce qui était soleil.
Les hivers en Floride, les gens reviennent, puis ils ont l'air du papier parchemin, là. Oui,
ouais, absolument. Mais il y a cet aspect-là, mais il y a l'aspect aussi. Les gens aussi se disaient, je travaille dehors, j'ai pas besoin de lunettes, je suis une vedette. Tu te souviens, bon, je ne veux pas te vieillir, mais on a à peu près le même âge, mais tu te souviens, il y a une époque les gens avaient, où tu t'envoies une lunette de soleil, tu joues à vedette. C'est comme s'il y avait une honte.
Oui, tout à fait. Moi, pour des raisons différentes de la dégénérescence maculaire, parce que je fais de la rétinite, je porte des verres fumés, même quand il pleut. Hein. Alors hier, il ne faisait pas très beau, puis j'allais quand même faire mes courses avec mes verres fumés, puis les gens me regardaient un peu de travers en voulant dire... Quoi, il est recherché par la police, lui?
Mais tu vois, on a ça ancré dans la philosophie. Et le problème qu'il y a, pas faire peur à personne, mais tous ceux qui travaillent, les cols bleus qui travaillent à l'extérieur, les gens qui entretiennent les jardins, les gens qui font du paysage, les gens qui sont chauffeurs d'autobus, les chauffeurs de taxi, les policiers, policières, brigadières, tous ceux qui sont à l'extérieur, j'en vois régulièrement pas de lunettes de soleil. Tu dis, ben voyons donc, c'est comme, il faut se protéger les yeux. Alors, tant mieux que les plus jeunes, ils sont plus sensibilisés.
Oui.
Mais je te dirais qu'on a une job à faire, et c'est pour ça que la Fondation existe, c'est pour ça que j'ai lancé la Fondation, parce que rien qui se faisait pour sensibiliser les gens, en général, je généralise, hein, je n'ai pas...
C'est certain que de poser la question à une assemblée de 30 ou 40 personnes en demandant qui connaît ou a entendu parler de la dégénérescence maculaire, c'est qu'il y a juste une ou deux mains qui timidement sont levées, veut dire qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Dans les opérations ou les activités de visibilité, oui. C'est le cas de le dire, ou de financement. Je voudrais terminer pour en parler. Il y a le marathon.
Oui, il y a le marathon.
Et ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur parce que tu as couru beaucoup.
Oui, absolument. Tu vois, j'ai couru, j'ai plus de... À mon compteur, j'ai plus de 10 000 km. Là. J'ai plusieurs marathons et demi-marathons et des 10, nommez-les toutes. Et j'ai la maladie quand même pour te dire que malgré que je suis en forme, la maladie a continué à progresser. Alors, c'est pour te dire que quelqu'un ne fait pas d'exercice. Mais tout ça pour dire que nous, on croit à la santé d'abord. Si on fait attention, on fait le maximum au niveau de la santé, on peut retarder la maladie. Et on s'est associé avec le Marathon de Montréal cette année. Absolument, on produisait nos courses.
Il me semble que vous couriez d'habitude début juin.
Oui, c'est en plein ça. Sauf que cette année est arrivée au niveau de ma santé. Il y a eu différents obstacles. J'ai pas pu produire l'événement. Puis je suis pas mal la colonne vertébrale de l'événement. Alors, ça fait que, parce que tous nos bénévoles, ce sont des aînés. Alors, j'enlève rien. Je veux pas faire d'âgiste de loin de là. Mais je voulais pas leur donner la responsabilité de s'occuper de 700 personnes qui courent. Donc, j'avais déjà été diagnostiqué que je devais être en congé pour cette période-là. Donc, je devais par défaut annuler l'événement. Mais, donc, c'est notre source de revenus première, parce qu'il n'y a aucune source de revenus autre dans la fondation. Il n'y a pas de salaire dans la fondation. Tout est fait bénévolement. Et donc là, il fallait retrouver une source de financement. Et l'année passée, avec le Marathon de Montréal, on s'est associé où est-ce que les gens peuvent courir, peu importe la discipline qu'ils vont courir au Marathon de Montréal, que ce soit le 5, le 10, le demi-marathon ou le marathon, ils peuvent courir pour la fondation des MLA. Ah. C'est-à-dire qu'ils peuvent cumuler et amener des sous.
Oui.
Puis nous, automatiquement, qu'il y a 200 $ d'encouragement ou de dons qui ont été faits au coureur ou la coureuse, nous, on rembourse les frais d'inscription. Donc, d'accord. Le coureur est court pour la cause à 100%.
Ben, ça, c'est magnifique. Ça, le marathon a lieu deuxième moitié de septembre, si je ne me trompe pas.
Oui, le 23. Je n'ai pas la date précise, mais je pourrais te l'avoir. Oui, le 23, je me trompe.
Parfait.
Pas.
Puis on a tout l'été pour se pratiquer puis se mettre en forme. Voilà. Et mettre les verres fumés.
Oui, c'est important. Si les gens veulent l'information, ben, fondationdmla.com. Il y a la revue aussi, le web magazine qu'on produit, maculaire.ca. C'est vraiment toute l'information.
Excellent. Ben, merci beaucoup, Pierre. Je te souhaite un prompt rétablissement. Merci. Et on se revoit en septembre.
Oui, absolument, sans faute. Merci à toi.
Super.
Gauchaje de toda la gente. Qué bueno, che. Qué lindo es reírnos como hermanos. ¿Por qué
Avril qui achève, mais on est toujours au mois d'avril. Avril est le mois de l'autisme au Québec. Et pour nous en parler, mais peut-être encore plus précisément pour nous parler de la région Haute-Côte-Nord, Manicouagan, on a le plaisir d'avoir avec nous Mme Hélène Gagnon. Bonjour, Mme Gagnon.
Bonjour.
Vous êtes coordonnatrice chez Action Autisme en Haute-Côte-Nord, Manicouagan. Comment ça se passe par chez vous? Est-ce qu'il y a des problèmes de prestations, de services? Est-ce que les distances, le manque de ressources vous affectent ou vous avez quand même le vent dans les voiles?
Bien, on a tout de même la difficulté qu'un peu partout, là, le manque de ressources, effectivement. On est toujours à la recherche là, d'employés pour combler certains postes. Toutefois, on s'en sort quand même assez bien. On réussit à avoir des activités, des services qui sont quand même adaptés aux besoins des familles.
Votre organisme, Action Autisme en Haute-Côte-Nord, Manicouagan, ben, ça date de 2005. Alors, c'est quand même un organisme qui est bien implanté dans votre région. Comment ça a démarré?
Ben, en fait, c'est un groupe de parents qui se sont rassemblés pour développer ce nouveau service-là pour répondre vraiment aux besoins spécifiques des familles de notre région.
Et vous couvrez grand, là, parce que au début, c'est des gens qui étaient de Tadoussac, je pense, à Baie-Trinité. Ça ratisse large, là.
Ben, effectivement, c'est quand même un grand territoire. C'est nos spécifications là, un peu là, de la côte nord, c'est que le territoire il est grand, là, c'est une étendue de plusieurs kilomètres. Donc, c'est ça. En fait, on sépare la côte nord en deux. Là. Il y a un autre organisme communautaire qui dessert là, l'autre partie de la côte nord. Donc, on s'est comme séparé ça en deux.
OK, d'accord. Mais tout de même, vous avez pas mal de. Combien de familles ou est-ce que vous rejoignez? Combien de personnes bénéficient, si je peux dire, au fil de l'année des services de votre organisme?
Nous, on a plus de 100 familles. Je crois qu'on est rendu à 115 familles, là, dont au moins un membre a un trouble du spectre de l'autisme et parfois deux membres, des fois trois membres aussi. Donc, ça dépend vraiment des familles.
Donc, ben, et ces besoins-là sont variés parce que les gens n'ont pas tous le même âge. Si on part, mettons, je dirais d'un point de vue chronologique, là, dans une famille, il y a une naissance et en bas âge, il y a un diagnostic, par exemple, de troubles de spectre de l'autisme. À quel moment est-ce que vous commencez à intervenir?
Ben nous, dès que la personne a déjà un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, on offre des services là, sans problème. Que ce soit une suspicion ou un diagnostic temporaire, on est déjà là pour soutenir les familles. Donc, ça peut commencer à parfois 2 ans. Donc, on est là dès le départ pour essayer de les soutenir là, au meilleur de nos capacités, si on veut.
Je pense qu'une des choses qui est particulièrement, je dirais, prisée, ou qui est populaire, c'est entre autres l'aide aux devoirs.
Oui, il y a l'aide aux devoirs qui est très, très appréciée des parents, comme n'importe quel parent, je vous dirais, là, mais en autisme, c'est particulièrement apprécié. Donc, c'est quelque chose que nos parents utilisent beaucoup. Il y a comme deux formules, soit que c'est des employés d'Action Autisme qui se rendent dans les familles pour offrir le service d'aide aux devoirs, ou encore les parents ont droit à un remboursement, là, si ils font l'embauche d'un professeur particulier, donc ils ont le droit à 40 $ par semaine de remboursement pour l'aide aux devoirs.
Pour trouver une ressource, parce qu'évidemment, il y a toujours une question de distance et de disponibilité, mais alors soit c'est un remboursement ou il y a quelqu'un de chez vous qui va se déplacer.
Mais là, oui, ça, effectivement. C'est sûr que le service avec les employés d'Action Autisme, ça couvre notre territoire, si on veut, là où que notre bureau est situé, c'est plus Baie-Comeau, parce que on s'entend que se rendre jusqu'à Tadoussac, là, c'est quand même quelques heures de route.
Oui.
Et c'est ça. Effectivement, ça dépend là, vraiment du territoire où la personne habite, mais le service est possible, là, peu importe là, la façon. Puis ensuite, un autre service aussi qui est beaucoup, beaucoup apprécié, c'est le service de répit à domicile là, qu'on a.
Oui.
Et puis gardiennage, là, c'est vraiment notre majeur, si on veut, là. Ça peut permettre là, aux parents là, justement d'avoir un petit moment à eux. Soit c'est la même formule, on peut se rendre à domicile là, pour permettre aux parents de sortir, vaquer leurs occupations, un petit peu au resto, peu importe. Ou encore, on peut aller chercher les jeunes là, pour faire des activités, là, soit que l'activité est déjà prévue ou soit que c'est quelque chose qui décide. Là,
comme presque un parrainage, parce que ça. Parce que évidemment, ça dépend le répit. Ça peut être que les parents. Ça leur donne un, un coup de pouce s'ils ont l'occasion de sortir de la maison ou vice-versa, si ça peut permettre aux jeunes d'aller prendre une bouffée d'air, là, puis que les parents puissent être à la maison par eux-mêmes. Oui. Mais d'une façon ou d'une autre, ça, c'est quelque chose qui est disponible par votre service. Ça, c'est combien? C'est quoi les plages horaires? Est-ce que ça peut être tout un week-end, une demi-journée? Comment ça marche?
Nous autres, les parents ont droit à 6 heures par semaine. Donc, okay. Ça peut être fractionné là, 3 fois 2 heures.
Oui, ou OK. Au
complet. C'est ça. Donc, c'est, ils prennent la formule qu'ils veulent. Mais en plus aussi de ce service-là de répit gardiennage, si on veut, on a des activités à toutes les fins de semaine aussi. Oh. Donc, le samedi, dimanche, là, en général, on a toujours des activités de prévu que ça peut être d'aller jouer au quai, aller au cinéma, prendre des marches dans les sentiers. Donc, ils ont accès à venir passer là, toutes des journées d'activités qui ne comptent pas dans leurs heures de service. Donc, c'est un plus aussi.
D'accord. Et ça, c'est à Baie-Comeau.
Oui, c'est ça, c'est à Baie-Comeau.
Ah ben c'est bien. Puis vous avez un camp de jour, je pense, pour l'été.
Oui, c'est ça, effectivement. On a un camp de jour. On a même, avec la popularité de notre camp de jour, on a dû louer un autre local. Ça va être la troisième été, cet été, qu'on loue un deuxième local pour répondre là, le plus possible aux demandes des familles. Qu'on a quand même beaucoup de participants pendant l'été. Donc, c'est ça, on a deux locales, là, quand même des assez beaux et grands locales pour accueillir tout ce beau monde-là. Mais je vous dirais qu'à chaque fois qu'il fait beau, on est à l'extérieur le plus possible. On essaie de profiter, les faire bouger. Puis tout le monde est bien bronzé à la fin de l'été.
Oui, OK. Ben ça, c'est bien parce qu'il n'y a rien comme être au grand air. Là. L'été, ben, c'est ce qu'on veut pour les enfants.
Oui.
Plus tard, La personne qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme va commencer à passer au travers de l'enfance, mais va atteindre l'adolescence ou va devenir un jeune adulte. Est-ce que votre service continue? Est-ce que vous avez encore quelque chose pour aider?
Oui, effectivement, on n'a pas de limite d'âge. J'ai tendance à dire les jeunes.
Oui, quand on ferme les yeux puis on y pense, c'est ce qu'on voit dans notre esprit en premier lieu, là, mais la population vieillit.
Effectivement, on n'a pas de limite d'âge. On offre des services, là. On peut autant accompagner en emploi. Dans n'importe quel domaine, on s'adapte là, pour répondre aux besoins des familles. D'ailleurs, on est en train de développer là, avec le Carrefour Jeunesse Emploi un service là, de plateau de travail un peu. Là. C'est en développement, si on veut. Là.
D'accord.
Mais aller voir les ressources, qu'est-ce qui existe comme au niveau des employeurs, qu'est-ce qui existe aussi au niveau de nos jeunes, essayer de faire des portraits de nos jeunes, leurs capacités pour essayer justement de faire des formules qui s'emboîtent ensemble, si on veut, que selon les besoins des employeurs et selon les capacités de nos jeunes aussi, qu'on soit capable de faire des beaux matchs qui fonctionnent bien, tu sais, pour éviter un peu les échecs là au travail, et donc favoriser les meilleures chances de réussite au niveau de...
Oui, l'intégration, parce que c'est sûr que souvent, on n'a pas beaucoup de tours au bâton, si je peux dire. Il faut que ça marche assez bien du premier coup de préférence, parce que ça peut décourager et le jeune, et d'une part, et l'employeur d'autre part. Là, c'est important d'avoir un bon mariage. Alors, dans ce sens-là, vous offrez des ateliers pour développer des habiletés sociales, des choses comme celle-là?
Oui, aussi. En fait, dans le cadre du travail, c'est vraiment, là, on veut travailler aussi avec les partenaires comme CEMO, autant là, l'éducation des adultes. Il y a plusieurs partenaires avec lesquels on veut travailler en collaboration parce qu'il y a déjà des beaux services qui existent aussi, il ne faut pas les oublier. Juste pas dédoubler les services, mais on veut aller travailler en collaboration avec eux. Puis, effectivement, on a plusieurs ateliers qu'on offre, que ce soit au niveau du loisir, que ce soit au niveau des habiletés sociales. On a des ateliers de peinture, on a des ateliers de danse. Nouvellement, de cette année, on pense aussi avoir là, développé des ateliers de musique de percussion.
OK.
C'est ça, les habiletés sociales...
Mais la musique de percussion et les habiletés sociales, moi, évidemment, je peux m'imaginer que ça, il faut conjuguer les deux, là.
Ouais.
Mais sans blague, vous faites des ateliers de cuisine aussi.
Oui, effectivement, on a des ateliers de cuisine qu'on a développés justement pour essayer de développer l'autonomie de nos personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme, dans le but aussi là, de s'en aller de la maison un jour, être capable de voler de leurs propres ailes. Donc, c'est des petits ateliers simples de cuisine. Alors là, il faut plus jeunes aussi pour commencer à les pratiquer. Mais nos plus vieux, c'est pour ça. C'est pour justement là, développer là, en but de...
Est-ce que vous avez, parce que comme si l'organisme existe depuis maintenant 18 ans, on peut imaginer au début les parents qui se sont regroupés pour lancer tout ça. On parlait d'enfants qui étaient assez jeunes, qui aujourd'hui sont des ados, des jeunes adultes. Alors là, comme vous dites, toute l'idée de l'insertion dans le domaine du travail, de l'intégration, mais après ça, il y a de l'autonomie. Puis est-ce que vous commencez à avoir maintenant des... Dans votre population que vous desservez, commencer à être à l'étape du logement, ainsi de suite?
Effectivement, c'est vraiment vers là qu'on s'en va aussi dans le développement de nos services. On est en train aussi d'essayer de vouloir développer là, des appartements supervisés, ces services-là un peu. Là, on essaie de trouver une formule là, qui serait gagnante là, un peu là, pour les besoins là, de notre population.
Ben, merci beaucoup, Mme Gagnon, de nous en avoir parlé. Vos sources de financement, est-ce que vous avez des événements pour financer votre organisme ou vous comptez essentiellement sur les subventions gouvernementales ou l'appui du ministère?
On ne fait pas vraiment d'activité de financement pour le moment. Par contre, on a Centraide qui nous aide financièrement, qui, eux, font des levées de fonds là, pour...
D'accord.
Parfait.
Ben, on va suivre ça, puis je vous remercie beaucoup, puis ben, bonne chance, parce que vous faites beaucoup de travail dans une grande région. Merci.
Ben, merci à vous.
Avec François Beauregard.
De retour après la pause, et de retour pas tout seul, on a le plaisir d'avoir avec nous Mme Esther Hardy. Bonjour, Esther.
Bonjour, François.
Fait le tour du monde une fois de plus. Il faut rentrer de temps en temps à la maison. Ben voilà. Et on a appris une nouvelle capitale, je dirais.
Oui. En fait, l'OSM a reconnu...
L'OMS, vous voulez dire.
L'OSM, oui, c'est très drôle.
L'Orchestre symphonique, c'est super.
Je suis revenue
super,
à Montréal sans vouloir.
Ça va être le lancement de la saison mercredi.
Oui. Donc, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu comme un service essentiel la réadaptation. Oh. Donc, c'est quelque chose quand même d'important. On parle ici de réadaptation physique ou fonctionnelle sous la forme d'un appareillage. Donc, la réadaptation permet à 2,4 milliards de personnes dans le monde de limiter leur handicap. Donc, c'est vraiment important.
2,4 milliards.
Milliards.
C'est à peu près le tiers ou...
De la population.
Ben, la population mondiale est rendue pas loin de 8,5 en milliards. Mais c'est énorme. Puis on peut penser que c'est pas toute cette population-là qui a accès à une réadaptation. Là.
Naturellement, donc, c'est le problème majeur. Ça enlève une forme d'inclusion sociale et professionnelle pour tous ceux qui, malheureusement, n'ont pas accès. En fait, dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, plus de 50 % des personnes qui en ont besoin n'y ont pas accès.
Et la population du monde est en train de vieillir. Alors, on peut penser que ce ne sera que
ça va s'accentuer, voilà. D'ailleurs, les États membres de l'OMS, et non pas de l'OSM, voteront normalement une résolution historique pour le renforcement de la réadaptation dans les systèmes de santé nationaux dans le cadre de sa prochaine assemblée qui aura lieu du 21 au 30 mai.
D'accord. Donc, je ne veux pas être cynique, mais je vais l'être, mais il ne faut pas prendre ça comme un défaitisme. Non, mais souvent, les grands organismes, je dirais, supranationaux, évidemment, ils vont émettre une politique disant que la réadaptation est un droit et que c'est nécessaire. Puis les nations, les pays membres vont dire oui, tout à fait, puis nous aussi, on va faire un truc là-dessus. Mais c'est rendu à l'application que ça chope souvent.
Oui, on dirait que les actions ne suivent pas toujours les babines, comme
dirait-on. Oui, voilà, c'est ça, parce que c'est vrai, il y a souvent
c'est
question de cet aspect-là, puis... On fait des discours, puis tout le monde est sincère, mais quand c'est le temps de prendre le budget puis dire bien, combien on alloue à telle ou telle priorité, là, des fois, c'est là que ça...
C'est là que ça, ouais, le bas blesse.
Oui,
ceci dit,
voilà,
on peut...
tout à fait. Enfin.
On peut peut-être s'encourager en se disant que c'est quand même l'aboutissement de 40 ans de combat et d'engagement auprès des plus vulnérables qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un service essentiel.
Exact. Et ça, c'est une grande amélioration parce que c'était surtout pas à l'agenda ou à l'ordre du jour il n'y a pas si longtemps. Alors, on s'en va dans la bonne direction. C'est juste que ça fait toute une collection de porte-avions qui tournent très lentement quand il s'agit de changer de cap. Mais enfin, il faut garder espoir et c'est en poussant qu'on va y arriver. Hein? Il ne faut pas abandonner la lutte. Au contraire, on parle de vieillissement de la population. Il y a une étude qui semble faire un lien entre... la mémoire, mais vraiment de façon très, très simple, et une qualité de prédire la démence dans un laps de temps assez court.
Oui, c'est absolument fabuleux. C'est un simple test qui pourrait prédire le déclin cognitif avant l'arrivée des symptômes. Donc, selon des chercheurs américains, un test de mémoire pourrait suffire à prédire si une personne sans symptômes apparents, à l'heure où on se parle, développera éventuellement des troubles cognitifs. Donc, c'est quand même très intéressant de pouvoir faire ces tests-là, là. Parce que ça touche quand même beaucoup de gens. Hein?
Oui, tout à fait. Mais et c'est vrai que si on peut faire, un dépistage ou être au moins au fait de la situation plus tôt, on peut s'adapter. Et on avait pas une question récemment qui disait que quand on était optimiste par rapport à l'âge, tout allait mieux.
On en parlait la semaine dernière. C'est vrai qu'on a parlé de ça. Ben là, ici, on parle quand même de tous les troubles de mémoire, de raisonnement, d'orientation, de compréhension et de jugement. Donc, j'imagine, comme vous dites, que si ces facultés-là vont bien, on reste optimiste, ça pourrait peut-être aider.
Ça peut nous aider.
Oui, mais il reste qu'on a fait quand même aux États-Unis un test avec 969 participants âgés de 69 ans en moyenne, sans problème de réflexion ou de mémoire. Donc, des personnes qui vont bien. Ces personnes ont reçu 4 cartes avec des dessins de 4 éléments différents.
D'accord.
Donc, on leur a demandé tout simplement d'identifier l'objet appartenant à une catégorie régulière. Par exemple, les participants nommaient l'élément raisin, donc qui est un fruit.
Ah, c'est bon, ça va bien.
Des petites associations toutes simples comme ça. Uh-huh. Puis c'est comme ça qu'on a pu déterminer, en fait, les stades où les gens pourront éventuellement,
il y a une apparition
précoce
ou peut-être de troubles cognitifs. C'est tant mieux. Surtout si le test est facile, ça va permettre qu'on puisse l'offrir à une grande partie de la population rapidement. Là.
Facilement.
Ça ne demandera pas des électrodes implantées ou des trucs comme ça. Voilà.
Et d'ailleurs, c'est qu'on a déterminé 4 stades dans le test.
D'accord.
4 niveaux, donc de 0 à 4, naturellement, pour voir là, la profondeur des troubles possibles. On va
Je suppose que raisin, c'était niveau 1. Hein? Voilà.
Pas tout à fait, mais bon.
Mais bon. Hein?
Oui.
Enfin, je sais pas, mais faudrait voir les autres catégories. Bon, on fait des blagues, mais c'est quand même important.
C'est une nouvelle
avec le vieillissement
très
de la population, encore une fois. Il faut être alerte. On en parlait tout à l'heure avec notre collègue Pierre Brisebois. On parlait de dépister la dégénérescence maculaire. Même chose avec un vieillissement de la population. C'est un incontournable.
Voilà. D'ailleurs, ce qu'on nous disait, c'est que... Donc, les gens qui sont au stade 0, finalement, ça fait 5 stades. Là, c'est pas seulement de 1 à 4, mais de 0 à 4. Les personnes au stade 1 et 2 étaient 2 fois plus susceptibles de développer un déclin cognitif et les personnes au stade 3 et 4, 3 fois plus susceptibles. Donc,
c'est une échelle logarithmique.
Oui, ça donne quand même une bonne idée. Hein?
Oui, tout à fait. Mais on s'en va faire un tour en France, quittant cette étude qui avait été réalisée au Neurology Department of the Albert Einstein College of Medicine de New York. Et maintenant, on s'en va en France retrouver un jeune écrivain.
Oui, il s'appelle Teddy. Il est devenu aveugle et y a écrit un livre et vient de sortir un vidéoclip. Bon, il faut savoir que ce jeune homme est devenu aveugle sans qu'on comprenne pourquoi. Il est comme un mystère pour les médecins qui n'ont jamais D'accord. trouvé quel était son problème.
Okay.
C'est comme un mystère au niveau de sa maladie. On n'a aucune idée pourquoi il est aveugle. Donc, c'était d'autant plus frustrant pour lui. C'est arrivé à 14 ans.
Oh.
Donc, il est originaire de Breteil, dans l'Oise. Donc, il a perdu la vue à cet âge-là.
C'est le jeune Teddy Fournier.
Ouais,
hein?
ça semblait impossible pour lui de faire une vie normale, de pouvoir...
Ces paroles-là ou son cheminement est assez commun à toutes les personnes qui vivent le deuil, si je peux dire, au moment de... d'un diagnostic ou simplement de la réalisation qu'on perd la vue, ou ça peut être une autre forme de situation d'handicap aussi, mais on a l'impression que la vie vient de se terminer.
Voilà.
Et que ce ne sera... C'est sûr qu'il y a un avant puis un après, ça, on en convient, mais souvent, surtout à l'adolescence, je pense à beaucoup de gens que je connais qui ont des maladies oculaires là, rapides, comme Leber, entre autres, ou Stargardt, souvent on a l'impression que la vie va s'arrêter alors qu'on a à peine commencé. C'est un drame.
Tout à fait.
Teddy a été capable de passer au travers.
C'est exactement ce qui lui est arrivé. En fait, on dit que son problème se rapproche énormément de la neuropathie optique de Leber. Donc, naturellement, ça l'a posé un vrai diagnostic. En fait, ils ne sont pas encore capables de poser un vrai diagnostic.
Il a donc écrit un livre qui c'est pas gros, hein, c'est une plaquette, c'est 94 pages.
Oui, tout petit, mais en fait, avec ce livre-là, il veut montrer que l'impossible n'existe pas. On peut avoir des galères, on peut aussi s'en relever.
Exactement. Ça s'appelle « Teddy Fournier, vers la lumière ».
Oui, tout à fait.
J'ai été voir Kindle, Amazon, là. Oui, on peut l'obtenir.
Assez facilement,
voilà.
Je pense.
Il n'est pas encore disponible en livre audio. Ah, mais peut-être c'est quelque chose que... auquel Canal M, Vues et Voix pourra pallier, hein?
Oui.
Mettez ça sur la liste. Ce sera certainement quelque chose qui va aider d'autres personnes dans la même situation. Puis parlant de cécité et de phare, voilà, dans la nuit.
On a quelque chose de vraiment... En fait, vous connaissez sûrement Louis Braille.
Qui ne le connaît pas?
Donc, à Seine-et-Marne, à Coupe-Vray, qui est à peu près à 45 minutes de Paris, à l'est de Paris, le musée Louis Braille ouvre les portes du savoir aux voyants comme aux malvoyants.
Oh.
Donc, on a décidé vraiment d'ouvrir les portes pour que tous puissent comprendre, premièrement, quelle est la vie de Louis Braille, quel est cet homme extraordinaire.
C'est sa maison natale. On parle ici de sa maison natale. Hein?
Oui, c'est sa maison natale sur la rue Louis Braille. Donc, on en a
fait
un musée.
Mais ça, ils ont changé le nom de rue, là. Je ne peux pas croire, quand même.
Je crois que oui, je crois. En effet. Donc, c'est ça, on a aménagé sa maison pour pouvoir vraiment expliquer son histoire, le parcours de sa vie. Et en fait, il s'est complètement dédié à l'éducation des personnes malvoyantes. C'est un être quand même exceptionnel. Louis Braille, on pourrait le comparer, à nos grands informaticiens d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Écoute,
exact.
Pour l'époque, c'était vraiment... quelque chose d'exceptionnel. Donc, on peut visiter sa maison et autant les voyants que les personnes vivant avec un déficit visuel peuvent trouver leur compte dans son histoire et tous les détails.
Ce serait scandaleux que ce musée ne soit pas accessible. Hein? Mais je peux vous dire, pour avoir entendu des échos de groupes de jeunes ici du Québec qui ont été avec la Fondation des aveugles du Québec littéralement en pèlerinage là-bas, c'est comme l'aventure d'une vie, et en même temps c'est très énergisant. Tout à fait, de voir là tous les efforts et une vie consacrée à l'éducation et ainsi de suite pour les personnes, tout ce qui a été qui a changé pour les personnes handicapées visuelles. Alors ça, c'est vraiment, j'aime pas le mot là, mais on va le dire, c'est vraiment inspirant.
C'est inspirant, effectivement.
Parfait. Ben, là, on va faire une petite pause, puis on vient au pays parce qu'il s'en passe des choses ici. Hein?
Oui,
ça brasse au Canada. Tout de suite. Hein? Voilà, de retour et on parle de déplacement. On en parlait hors les ondes il y a quelques moments à peine à Montréal.
Oui, le transport en commun sera gratuit pour les aînés à Montréal à partir du 1er juillet. Donc, les personnes de plus de 65 ans pourront emprunter gratuitement et en tout temps. Donc, même en dehors des heures de pointe.
Pendant les heures de pointe.
Oui, pendant les heures de pointe et en dehors des heures de pointe, en tout temps, les autobus de la STM, le transport adapté, le métro, ainsi que les trains de banlieue et le REM.
Ah, le REM, oui. Bon,
quand il sera disponible, naturellement.
Des balades en REM, oui, c'est bon.
Donc, c'est ce qu'a confirmé la mairesse de Montréal la semaine dernière. On parle ici de la zone tarifaire A.
C'est la ville de Montréal qui se termine. La ville de Montréal, sa frontière, c'est l'île Sainte-Hélène.
Oui, voilà.
Parce que quand vous prenez le métro pour aller à Longueuil, ils vous disent à l'île Sainte-Hélène, ça, c'est la dernière station A. Puis si vous n'avez pas votre titre, là, vous devez nager le reste, mais on va quand même vous accueillir à Longueuil.
Par contre, je dois souligner, on doit être résident de Montréal, mais ça comprend aussi l'île Bizarre, l'île des Sœurs et, comme vous disiez, l'île Sainte-Hélène. Donc, ces titres gratuits seront pour les 65 ans et plus. Ils sont déjà disponibles au guichet d'échangeur. Donc, vous prenez le métro directement dans la station, vous pouvez aller chercher votre laissez-passer. Je crois, oui, on doit avoir d'abord sa carte avec photo.
Oui.
Ça, c'est important.
Parce qu'il ne faut pas refiler sa carte
à des amis.
Plus à quelqu'un d'autre. Hein,
qui n'a pas 65 ans.
Ben voilà.
Vous devez avoir, pour pouvoir l'obtenir, soit votre permis de conduire, votre carte accès Montréal ou un compte de taxes municipales, pardon, scolaire. Oui, voilà.
Résident
de Montréal. Donc, c'est ça, une carte Opus avec photo. Et une preuve de résidence, comme on vient de mentionner, pour l'obtenir. Et ce sera à partir du 1er juillet.
Bravo.
Donc, selon ce que la mairesse disait, c'est qu'on veut pouvoir redonner aux aînés qui ont construit Montréal et permettre d'être aussi actifs qu'ils l'étaient à l'époque.
À l'époque où ils payaient. Voilà,
voilà exactement. Mais c'est bien.
Il faut comprendre que les trois villes de l'agglomération Longueuil, Brossard, Boucherville offrent déjà à leurs citoyens la gratuité hors des heures de pointe.
Et Laval, je crois.
RTL, hein? Et à Laval aussi, cette disponibilité existe déjà. Mais alors, on salue l'initiative de la Ville de Montréal de rejoindre le 450, hein, cet univers souvent décrié.
Avec une petite nuance, si je peux ajouter, c'est que c'est en tout temps et non pas seulement en dehors des heures de pointe.
Voilà, c'est ça, exact. Mais...
C'est comment,
donc, on va pouvoir s'entasser dans l'autobus, là, gratuitement, sans méchanceté.
Oui.
Québec va allouer de l'argent. Bravo.
Oui. Québec investit pour créer de nouvelles places en centre de répit pour personnes handicapées. Donc, selon Lionel Carmant, qui est responsable des services sociaux pour la province de Québec, naturellement, il s'agit d'un premier pas. Québec allouera 10 millions de dollars par année pendant 5 ans pour créer de nouvelles places en centre de répit pour personnes handicapées de tous âges. De tous âges, soulignons-le, là, c'est quand même important. En fait, les services de répit offrent des soins aux personnes handicapées hors de chez elles et sont une véritable bouffée d'air pour les familles. Il faut le dire, c'est pas toujours facile, naturellement, d'être à temps plein pour prendre soin de quelqu'un. Les soins prodigués au quotidien sont très demandants. Donc, pour les proches, avoir à proximité un organisme leur permettant de souffler va faire toute la différence entre garder notre enfant et où le placer.
Exactement. Il faut comprendre qu'on nous promet que ça va augmenter, cette enveloppe, parce que l'année dernière, en pleine campagne électorale, le premier ministre François Legault avait promis 25 millions par année fois 4 ans. Hein, si le compte est bon, ça fait 100. Là, on parle de 10 fois 5, ça fait 50. Mais le ministre Carmant a dit « Ah, c'est un premier pas et la promesse originale ne sera pas oubliée. » Alors, c'est un dossier à suivre. Toujours dans l'univers des largesses, mais largesse, c'est peut-être pas le bon terme, de l'argent qui arrive à point nommé de la part du gouvernement, 1,5 million de dollars qui a été alloué à la Fondation des aveugles du Québec pour compléter son projet d'immeuble résidentiel adapté sur la rive sud de Montréal. Ça a été annoncé, je pense, pas plus tard que la semaine dernière.
Oui, voilà. La Fondation des aveugles du Québec reçoit donc une aide financière de 1,5 million,
Millions, oui.
De la part de la province pour accélérer son projet de réalisation de logements sociaux à Longueuil, ce qui va sûrement aider beaucoup. D'ailleurs, la
réalisation du projet, parce que avec le projet avait été annoncé, le terrain avait été identifié, tout ça. La Fondation avait fait un communiqué à ce sujet il y a à peu près un an et demi. Mais là, évidemment, avec l'explosion des coûts de la construction, des matériaux, ainsi de suite, je pense que ça va aider à l'aboutissement de ce projet. La liste d'attente est très longue pour des logements sociaux adaptés aux personnes handicapées visuelles.
Donc voilà, c'est 23 nouveaux logements sociaux et abordables pour ces personnes. C'est fabuleux.
Exact. Bon, parlons art maintenant.
Oui, en fait, on est dans le mois de l'autisme. Donc, le film « Devenir loup », c'est une œuvre de réalité virtuelle. En fait, « Les pieds en haut, loup », c'est le nom de l'œuvre, glisse le spectateur dans la peau d'une personne autiste. En fait, lunettes de réalité virtuelle au visage, écouteurs sur les oreilles, manettes dans les mains, nous plongeons dans l'univers de loup, une jeune autiste qui fête son 5e anniversaire.
Donc, c'est 5 ans, oui.
Toute petite.
C'est tout à fait. Bravo.
Dans l'une des premières scènes, nous nous retrouvons dans une chambre. Notre chambre sur le lit trône notre toutou préféré, le seul qui arrive à nous consoler. Sous nos doigts, les manettes vibrent, signe d'un mouvement, qu'un mouvement est attendu de notre part. Nous saisissons la peluche et tout devient rose autour de nous, comme si nous venions de plonger dans de la barbe à papa.
Oh là là!
C'est fascinant.
Eh oui!
Donc, c'est vraiment une expérience immersive.
Oui. Alors ça, c'est avec toutes des lunettes de réalité virtuelle, ainsi
voilà,
de suite.
Voilà, les écouteurs, tout
alors,
ça.
C'est là qu'on en est rendu dans la création, je dirais, d'expérience totale, immersive.
En fait, on se met vraiment à la place de ce que c'est l'univers d'une personne qui vit avec l'autisme.
Et cette œuvre a été créée par deux Québécoises, oui. Mères elles-mêmes d'enfants qui vivent avec des troubles du spectre de l'autisme.
Toutes les deux, c'est des femmes très engagées qui d'ailleurs sont très heureuses des résultats.
Martine Asselin et Annick Déniaud, hein, faut le rendre... Faut les nommer parce que, ce sont des artistes accomplis. L'œuvre a été primée et pas des petites choses. L'œuvre a également été présentée au Festival international South by Southwest à Austin, au Texas, et One World à Prague.
Oui, et en fait, elle a été primée, comme vous dites, par les prix d'écran canadien. C'est pas rien quand même, hein?
Comme étant meilleure expérience immersive. Alors, mais nous, on veut absolument vivre tout ça. Est-ce que ce sera possible
oui!
à titre de spectateur?
En fait, ça a été présenté déjà le 22 avril à la Place des Arts, mais ce sera présenté le 29 au Musée national des Beaux-Arts à Québec. Et ce sera de retour à Montréal, à la Cinémathèque québécoise, lors des sommets de l'animation, les 13 et 14 mai.
Ah, voilà, bravo, ça, c'est un rendez-vous. Alors, je ne sais pas comment on va pouvoir, comme spectateur, tout le monde, avoir des lunettes, des gants de réalité virtuelle. Je
ne
sais pas trop comment ça va s'organiser.
Ça en fait partie.
C'est non seulement c'est une œuvre d'art, mais en même temps, c'est une œuvre d'éducation. Alors, bravo.
Bravo.
Tout à fait. Ah, ben là, ça va être le temps de faire du babillard, hein?
Oui.
Je sais pas, il faudra se trouver une petite musique thème babillard, hein? Mais ça, on va faire du babillard pour parler un petit peu de ce qui se passe du côté de l'INCA.
Oui, on peut demander une bourse d'études à l'INCA, c'est maintenant. Les candidatures sont désormais acceptées. Donc, il y a une foire aux questions. Vous pouvez aller directement sur le site de l'INCA pour vous renseigner sur les types de bourses. Vous trouverez toutes les réponses dans la page FAQ hein, qu'on connaît.
Et ça, c'est pour les bourses postsecondaires.
Bourses
d'études. Et au niveau de la maîtrise.
Voilà.
Voilà. La date de limite d'inscription, c'est le 4
juillet 2023, donc d'ici là, on a le temps d'aller voir, de s'inscrire, tout ça. Des bourses d'études postsecondaires de 500 à 5000 $, c'est quand même bien.
Oh,
hein?
Oui, et non seulement il y a celles qui sont offertes par l'INCA, mais également il y a une liste de bourses qui sont offertes par toutes sortes d'organismes privés ou des fondations qui sont également disponibles. Mais là, il faut aiguiser son crayon parce qu'on demande quand même
des
lettres de motivation. Ouais. Des résultats scolaires, et ainsi de suite. Là, c'est un projet d'études. Là, on ne fait pas juste lever la main puis encaisser. Là, il y a un aspect méritocratique à tout ça. Ça, c'est important de le souligner.
On peut imaginer que quelqu'un qui est aux études postsecondaires, qui cherche une bourse en maîtrise, a peut-être l'habitude d'écrire quand même.
Oui, tout à fait.
Qu'en pensez-vous?
Oui. Par ailleurs, l'INCA offre également des balados et des formations.
Oui, chaque vendredi, venez poser vos questions. En fait, de 10h à 11h30, c'est le volet information. Lynn Dubé, chef du programme technologie
On la
adaptée.
Connaît bien, Lynn était avec nous au début d'émission. Là, on est en train de découper les coupons dans les circulaires et les réclames.
Donc, en Zoom, peut vous donner de l'information ou par téléphone, en ligne, comme vous voulez. Si vous voulez recevoir le lien par courriel, on n'a qu'à lui écrire. En fait, c'est lynn.dubé@inca.ca. Donc, c'est une belle opportunité.
Oui, bien, il va y avoir une nouvelle capsule techno sur Jazz qui va nous permettre de découvrir des aides contextuelles qui, entre autres, vont nous permettre de nous familiariser avec des programmes ou des nouvelles fonctionnalités qui sont parfois méconnues. La rencontre a lieu sur Zoom le 8 juin de 10 à 11 heures. Le 8 juin est un jeudi. De 10 à 11 heures pour répondre à vos questions concernant la capsule. Les capsules précédentes aussi ont été archivées Alors, tout ça, on peut aller sur le site INCA et on va avoir ça à la portée de la main ou du bout du doigt. Ben, merci beaucoup, Esther Hardy. On se revoit la semaine prochaine.
Pour un autre tour du monde.
Le tour de la planète. On tient à remercier tout particulièrement Jennifer Hondo, notre technicienne à la mise en onde aujourd'hui. Merci, Jennifer.